Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Sarah Pitkowski, David Douillet, Jérôme Pinault, Fred Weiss ce matin dans les grandes gueules du sport. Merci de nous écouter sur RMC, les grandes gueules du sport qui sont également à retrouver tous les jours en podcast. Vous pouvez notamment retrouver notre débat de 9h sur Paris-Roubaix. On retournera à Roubaix, retrouver Christophe Cessieux dans une heure pour reparler de vélo. Est-ce qu'on est en train de vivre les plus belles heures du cyclisme? 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant. Et puis évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de la très belle victoire de Pauline Ferrand-Prévot. C'est la punchline GG dans 30 minutes. Le cyclisme féminin change-t-il de dimension grâce à cette victoire? Mais d'abord, on va revenir sur une claque dans les GG.
RMC, le bras de fer GG.
Il arrête le crochet, il a perdu ses appuis, la tentative de l'extérieur une fois, deux fois. La bonne sortie de Roulis et derrière ça file au fond. Le décalage de Zakaria pour Minamino. Et Minamino qui du plat du pied ouvre le score pour l'AS Monaco.
Il n'y a pas de marquage sur Minamino. Roulis qui n'arrive pas à reprendre le ballon. Kondogbia, Murillo, Garcia, tout le monde est perdu.
Et ouais, ça fait 2.
Ça fait 2-0 pour l'AS Monaco. Et l'Olympique de Marseille qui commence à couler comme d'habitude en ce moment. À l'extérieur, les défenseurs marseillais ont perdu 5 ballons consécutifs. Mais quand vous savez pas le faire, le faites pas les gars.
Et la frappe qui vient lécher la barre transversale de la part de Zakaria, ça fait 3-0.
Victoire de l'ASM, 3-0. Monaco qui n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer assez largement.
L'OM a encore une fois coulé et l'AS Monaco est un beau deuxième de Ligue 1.
C'était le choc de la 29e journée de Ligue 1. L'OM s'est lourdement incliné, vous l'avez entendu, à Monaco. 3-0 et pointe désormais à la 3e place, à un point de l'ASM, mais talonné par Strasbourg, par Lille notamment, et peut-être par Lyon si les Lyonnais s'imposent ce soir face à Auxerre. L'OM va donc devoir batailler pour ne pas perdre sa place en Ligue des Champions la saison prochaine, mais aussi pour éviter que la fin de saison vire au cauchemar. Alors, après cette claque à Monaco, l'OM va-t-il s'en remettre? Dans le coin droit, il pense que l'OM ne s'en remettra pas. La team non représentée par Sarah Pitkowski, David Douillet et Fred Weiss. Dans le coin gauche, seul face à la meute, il pense que l'OM s'en remettra. La team oui, Jérôme Pinault. Juste avant de vous entendre, on va accueillir Aurélien Tirsin qui commentait la rencontre pour RMC. Salut Aurélien.
Salut les GG, salut à tous.
Salut.
Comment l'OM a vécu cette nouvelle gifle reçue à l'extérieur, Aurélien?
Sur le papier, c'est un cauchemar sans fin pour cette Olympique de Marseille qui a encaissé 3 buts à l'extérieur pour la 4e fois de suite. Pourtant, rien d'alarmant pour le défenseur Geoffrey Kondogbia.
Nous, en tout cas, on n'est pas inquiet. On a encore notre destin entre nos mains et on doit jouer les coups à fond et on fera les comptes après.
C'est la plus mauvaise défense de l'Olympique de Marseille après 29 journées depuis 40 ans. Alors, du bout des lèvres, Geoffrey Kondogbia avoue quand même sa déception.
Ouais, une désillusion naturellement quand tu perds contre un concurrent direct. Par ce score-là, ça reste une déception. Donc on avait beaucoup d'espoir, comme vous l'avez dit. On venait de faire une bonne semaine, d'avoir bien travaillé. Et malheureusement, on a cette défaite. Donc ça fait partie du football.
On a eu la crise de nerfs du président Longoria après la défaite à Auxerre. On a eu la mise au point de Roberto De Zerbi à Reims dans les vestiaires pendant plus d'une heure. Mais tout cela semble loin. Cette fois, le coach italien préfère positiver.
Je suis optimiste quand je vois l'équipe telle qu'elle était en première mi-temps. Travailler encore plus dur comme nous l'avons fait cette semaine, gagner contre Montpellier, nos concurrents directs vont aussi s'affronter. Et celui qui ira en Ligue des Champions est celui qui perdra en dernier, celui qu'il voudra le plus y ira.
Il n'y a donc pas de punition prévue, pas de nuit au centre d'entraînement obligatoire. Mais derrière les discours polissés, on a vu le regard noir des cadres. Adrien Rabiot, Valentin Rongier ou Pierre-Emile Højbjerg en sortant des vestiaires. L'OM a déjà perdu 9 fois cette saison.
Merci beaucoup Aurélien. On a entendu donc que les Marseillais veulent garder leur calme. Mais est-ce qu'après cette défaite, l'OM va s'en remettre? Le point sur le bras de fer, sur le compte X des grandes gueules du sport. Et pour l'instant, eh bien, c'est la team non représentée par Fred Weiss, Sarah Pitkowski et David Douillet largement en tête, 76%. Face à Jérôme Pinault, 24%. Jérôme, l'OM va s'en remettre.
C'est quoi tes arguments?
C'est
là
le chevalier blanc qui arrive là.
Non, c'est pas le chevalier blanc, c'est l'objectif de l'Olympique de Marseille cette année, c'est la Ligue des Champions et ils sont toujours en lice pour. Il y a un match la semaine prochaine face à Montpellier que l'OM devrait gagner. Ensuite, il y a une réception de
alors que Monaco affronte Strasbourg.
Brest et Monaco la semaine prochaine affronte
Strasbourg.
Deuxième chose, c'est que j'ai vu le match hier évidemment. première mi-temps, je suis tout à fait d'accord avec De Zerbi, c'est une belle première mi-temps, c'est abouti. L'inquiétude, c'est que ça s'effondre toujours en seconde mi-temps. Mais est-ce que l'OM va s'en mettre? Oui, parce que de toute façon, dans le football, c'est une crise, une semaine, la semaine d'après, c'est l'euphorie. Il y a eu une crise à Monaco. Aujourd'hui, Monaco est devant Marseille.
Ça dure
tout va
un peu
bien.
Plus longtemps, hein, pour Marseille.
Parce qu'il y a plus d'écho, il y a plus d'écho quand c'est à Marseille.
Mais tu as raison, Jérôme. Sauf que là, on est à 5 journées de la fin.
Et il reste encore 5 journées, Sarah. Oui, une crise dans le football, c'est 2 jours, 2 journées, 2 semaines. La semaine d'après, tu gagnes un match.
Là, en l'occurrence,
et de nouveau le meilleur.
Là, en l'occurrence, la crise du côté de l'OM, elle est arrivée depuis la reprise. Et la crise de l'OM, malheureusement, elle n'est pas arrivée sur le terrain. Elle est arrivée par des dirigeants.
Elle est un peu sur le terrain aussi.
Elle est arrivée par les dirigeants et ça a eu quand même une incidence. Ça a quand même aujourd'hui une incidence.
Ça a été compliqué. Faut pas oublier non plus que le match à Auxerre a été plus que compliqué avant que Longoria pète un plomb. On a, si on revoit un peu tout cela et qu'on refait un peu l'histoire, on a amené un peu l'OM vers cette crise. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a des tensions sur le terrain entre les joueurs. Ça, on voit, il y a des attitudes entre joueurs qui ne sont pas acceptables quand on est joueur si professionnel. Maintenant, encore une fois, le calendrier, il est fait de façon à ce que l'OM peut vite se remettre en route et de faire de l'OM le deuxième ou le troisième de ce championnat. Et ce sera l'objectif. De toute façon, c'est aussi la raison de ces matchs ratés de l'OM, puis de Monaco et avant de Monaco. Moi, j'ai vu Strasbourg. Strasbourg est quatrième du championnat. Hier, Strasbourg est incapable de gagner contre Nice chez lui. Et c'est pas une équipe qui joue du haut de tableau pour jouer la Ligue des Champions. C'est une bonne équipe, Strasbourg.
David, il y a Monaco.
Est-ce que tu as écouté les arguments de Zerbi? Il en a pas. Le type dit, d'accord, très bien, on va se relever. Et puis de toute façon, si on fait un bon dernier match, tout va bien se passer. Il a pas de solution. Il a renforcé l'entraînement. Il les a mis sans doute dans le rouge. Et puis le scénario, comme tu l'as dit, il se passe bien en première mi-temps. Puis après, le château de cartes.
Physiquement, t'as raison.
Il y a aujourd'hui le sentiment qu'il y a pas de leader. Il y a une dynamique qui est négative, il y a une spirale descendante et pour moi dans ce qui a été dit après le match, dans ce qui a été vu pendant le match, il y a rien qui puisse prétendre à ce que l'OM touche le fond de la piscine et puis essaie de remonter vers la surface à ce stade. Et le problème majeur pour moi aujourd'hui, celui qui tient les rênes, c'est De Zerbi. Est-ce qu'il a la capacité de renverser la vapeur au regard de ce qu'il dit? Je suis très inquiet.
Est-ce que le groupe continue à adhérer? C'est surtout ça.
Parce qu'il a tout tenté,
visiblement. Non, c'est mon point. C'est ce qui m'inquiète le plus. Alors oui, il y a les défaites, il y a les victoires. Alors, il faut quand même se rendre compte que Marseille sur la phase retour, c'est la pire équipe à l'extérieur de Ligue 1 quand même. Faut quand même aussi prendre ça en considération.
Mais aussi, deux matchs à domicile à venir.
Il y a surtout, oui, mais après tu vas à Lille. Concurrent direct.
Il y a deux matchs à domicile.
Oui, mais après tu joues, tu vas. Oui, mais si tu t'arrêtes quand tu veux dans le calendrier, c'est assez simple. Il y a un match après à Lille et ça sera pas content. Bon, peu importe. En tous les cas, par rapport à De Zerbi, il faut quand même se rendre compte que ce garçon a tenté de s'énerver, d'être gentil, la calinothérapie. Voilà. On a l'impression qu'il est dans le flou absolu. Il ne sait pas comment tenir son équipe. Il envoie un peu des signaux contradictoires. Je suis gentil avec toi. Ah non, finalement, je te tape dessus. Mais ça va rendre fous les joueurs. Donc, s'ils sont en train de devenir fous, toi qui aimes Marseille, de ce que j'ai cru comprendre, à ton avis, ils ont plus de chances de finir troisième ou sixième? À l'instant T, avec toute la meute qui court derrière et qui est peut-être plus en forme, avec plus de victoires, ou en tous les cas, ratio victoire-défaite, plus intéressant sur les derniers matchs.
Si j'enlève mon écharpe de supporter?
Exactement.
Troisième, parce que derrière, c'est faible aussi.
Oui, je pense que tu n'as pas enlevé très très bien ton écharpe.
Il y a quand même une chose, c'est Kondogbia qui le disait.
Oui, ou De Kondogbia qu'on a entendu, effectivement.
Il disait, non, je crois que c'est De Zerbi sur, mais si on a envie, mais le problème c'est ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Tu as un Greenwood.
C'est le si qui est un problème.
Mais le Greenwood, il est à deux à l'heure sur le terrain.
Non, mais il n'a jamais envie, lui, Greenwood.
Il a jamais envie. Ils ont quand même perdu Balerdi avec cette entorse au genou. On ne sait pas s'il va revenir d'ici la fin de la saison. En défense centrale, c'est une passoire. Et même
le gardien qui est très bon d'habitude.
Balerdi, il fallait surtout pas. C'était même pas un joueur de Ligue 1 il y a 6 mois. Il était nul, Balerdi.
C'est le meilleur défenseur.
Il faut peut-être se poser des questions sur l'effectif de Marseille. Dans ce cas-là, effectivement, ce que tu dis est vrai. C'est ce qu'on disait que Balerdi.
Greenwood, c'était le génie que l'OM attendait.
Ouais,
l'OM avait de la chance qu'il ait dit oui avant de venir. Maintenant, il faut même qu'il joue.
Sur le papier, oui. Sur le papier, oui, il était d'un talent supérieur.
Mais un joueur de foot, c'est pas que faire des jongles et des roulettes à l'entraînement.
Il avait quand même un talent supérieur. Tu peux pas dire ça. Greenwood, on aime ou on n'aime pas le personnage, et je suis plutôt parti de ceux qui le détestent. Mais objectivement.
Comme l'OM a un effectif pour faire deuxième de Ligue 1, toi, tu en doutes.
Mais tu as raison, ils ont un effectif. Si ce n'est qu'aujourd'hui, et De Zerbi nous le disait, elle a l'impression que tout le monde ne tire pas dans le même sens. Même Rabiot est en train de tirer la sonnette d'alarme.
Il tire à boulet rouge sur ses coéquipiers.
Je pense que tout le monde dans ce club ne se rende pas compte de la chance de peut-être aller jouer en Ligue des Champions et qu'il y en a une grande partie qui n'ont jamais joué de Ligue des Champions. Donc si eux, effectivement, s'ils ont peut-être l'effectif, mais en tout cas, ils ne sont pas concernés.
Ils ne sont plus concernés par leur objectif et le montrer sur le terrain, ça n'a aucun rapport. Avoir l'effectif, oui. Et je pense qu'on était tous d'accord, surtout en début de saison, en disant Marseille fera un magnifique dauphin au PSG. On l'a tous dit et on était tous à peu près d'accord
avec
ça.
Mais Monaco le fait très bien.
Ils avaient deux jokers.
Monaco, Sarah et après David.
Il y avait Monaco, ils sont passés au travers. Et l'autre, il ne va pas falloir passer au travers de Lille.
David.
S'ils perdent contre Lille,
OM Lille, franchement, ça se passe toujours bien.
Tu sais, Fred, moi, je pense que le vrai problème de... Enfin, c'est moi qui le dis. Hein, j'ai l'impression, j'ai ce sentiment-là. C'est Longoria qui fait l'équipe. Et ce n'est pas De Zerbi qui l'a faite. De Zerbi, il est là... Il fait avec ce qu'il a et il fait avec ce qu'il peut. Et à mon avis, ce garçon, il est très démotivé par rapport justement à la qualité de ses joueurs. Mais tant que ce seront toujours les présidents qui vont construire une équipe et des coachs qui vont la subir, à mon avis, ça ne marchera jamais cette affaire-là. Et c'est ce qui se passe.
Après, il y a eu effectivement des rumeurs sur des départs de Roberto De Zerbi sur une fin de saison qui peut vraiment mal se terminer. Jérôme, tu le sais, si jamais il n'y a pas la Ligue des Champions à la fin... Ça peut être un nouveau projet à Marseille, il faut encore tout changer,
tout recommencer,
etc. et repartir à zéro.
Tu étais parti sur un cycle où tu travaillais, etc. T'as pas eu Ligue des Champions, t'es plus pareil. Hein. Et donc la pression, là les joueurs ils vont la ressentir. Tu disais qu'il y a des matchs à domicile, rappelle-toi quand même le début de saison et la phase aller, comment jouer l'OM à domicile. Hein. Ouais. Faut se rappeler de ça aussi. Donc faut se rendre compte de la pression qu'ils vont subir maintenant. Maintenant ils sont plus deuxième, ils peuvent revenir deuxième effectivement en battant Montpellier, mais ils le sont pas actuellement. La pression va falloir la supporter. Hein. Mm. Ça va pas être évident du tout.
Alors à 10h18 dans les grandes gueules du sport, Christophe est avec nous, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut Christophe.
Salut à tous.
Merci de nous rejoindre ce matin. T'as vu le match hier, j'imagine, contre l'AS Monaco. Est-ce que ton club va s'en remettre selon toi?
Je sais pas. Après, je veux dire, j'ai 38 ans, j'ai toujours vu mon club faire ça, hein. Faire croire que tout allait bien, on va être deuxième, on est large, on est tranquille, et finalement s'effondrer tout seul. Donc c'est un peu une spécialité. Hein. J'ai entendu des trucs et tout. Je suis pas trop d'accord sur le fait que Longoria fait son équipe, mais quand même, De Zerbi a quand même choisi les joueurs. C'est lui qui voulait Greenwood en première. Quand on voit l'apport de Greenwood en 2025. Clairement, je pense qu'on est sur un joueur qui n'est ni motivé. Je comprends pas ce joueur. En fait, il peut avoir du talent, mais il a été bon les trois premiers mois. Depuis, c'est quand même très moyen, voire mauvais. Je veux dire, hier, je l'ai pas vu dans les grands matchs. On le voit jamais. On peut parler de Luis Enrique qui a fait un début de saison aussi. Tony Truant, même assez intriguant parce qu'on l'a jamais vu à ce niveau. Et là, depuis, maintenant, il rate des. Il se retrouve seul face à la cage, il arrive à tirer à côté. Je veux dire, c'est très mauvais. Luis Enrique, hier, c'est catastrophique sur son placement défensif, sur son apport offensif. Je ne sais pas s'il y a un joueur hier, à part Rulli, et qu'on peut sauver. Donc c'est ça qui est déprimant. Quand j'entends l'entraîneur à la fin du match, il dit « j'ai rien à reprocher aux joueurs », mais moi j'ai plein de trucs à leur reprocher. Le niveau technique, le niveau d'envie, on vient de se manger 4 fois 3-0 d'affilée.
Tu crois pas que ça soit l'entraîneur qui est justement à bout de solution, qui essaye la calinothérapie maintenant après avoir essayé de dire
c'est ce qu'il dit devant la presse.
On est d'accord qu'une fois que tu as frappé des joueurs, je pense que tu peux leur faire autant de câlins que tu veux, c'est fini. Hein.
On sent perdu un petit peu quand même.
Je suis d'accord, mais c'est ça qui me déprime. Après, on savait très bien que c'est un entraîneur qui a une très bonne réputation, mais qui a jamais entraîné dans un club, on va dire, de standing. Il a toujours été dans des seconds couteaux où il a plutôt bien travaillé. Mais il faut quand même dire, il avait quand même l'habitude de prendre de nombreuses fessées. Il faut regarder ce qu'il faisait dans son club en Angleterre. Où il prenait, quand il perdait 3, 4, 5-0. Donc ça ressemble vraiment. Le problème, c'est que l'identité de jeu, on va dire la vérité, on s'ennuie à regarder l'OM. Je veux dire, les passes latérales, on n'a pas un buteur qui est capable de marquer. Je veux dire, le droit au but, il n'y est pas du tout. Je veux dire, moi, clairement, j'ai aucun plaisir à regarder l'équipe jouer. Hein. Je veux dire, on a passé l'année dernière, c'était horrible, on a fait trois entraîneurs différents. Cette année, je vois pas en quoi on a évolué depuis l'année dernière.
Hein. Donc plutôt inquiet pour la fin de saison de ton équipe qui...
Ben, on est quand même sur 5 défaites en 7 matchs, ouais, hein, je veux dire, contre Reims, contre Auxerre, je veux dire, là on joue Montpellier, je veux dire, notre spécialité c'est de remettre en vie les morts vivants, on est capable de perdre contre Montpellier, je veux dire, avec cette envie-là, je veux dire, bien sûr que c'est possible. Moi, j'attends de voir un peu la réaction du stade. Je veux dire, on a été quand même très patient, très clément et tout. Mais entre le niveau de jeu qui est quand même affligeant et maintenant les résultats qui étaient en chute libre, mais on était, pour rappel, on était la meilleure équipe d'Europe à l'extérieur en 2024. En 2025, on est la pire équipe à l'extérieur de Ligue 1. Je veux dire, il s'est passé quelque chose. Moi, je voudrais juste savoir ce qui se passe à l'intérieur du club. On n'entend pas parler le président, on n'entend pas parler Benassia, on n'entend pas parler Ravanelli au pire des cas. Mais je veux dire, depuis le truc des arbitres, où on est d'accord que bon, la prestation arbitrale depuis le début de saison, c'est catastrophique. Mais mis à part ça, ils n'ont rien à dire sur leur entraîneur, sur leurs joueurs. Je veux dire, c'est quoi la vision, je veux
dire, sûr que je suis d'accord avec toi, depuis 7 matchs, on voit beaucoup moins de monde. Du staff et de l'anglais du directoire de l'OM sur la pelouse après les matchs qu'il y a 7 matchs, quoi. C'est ce qui est marquant, par contre, et là je te rejoins, c'est comment dans ce club on peut être très euphorique et faire.
Après Longoria était suspendu aussi.
Non, mais Ravanelli, il est pas suspendu, hein. Ouais. Et on le voit plus, hein.
Ça a eu un impact aussi avec les sorties médiatiques.
Quand tu es un groupe comme ils le sont, avec quand même des joueurs cadres, Højbjerg a priori aurait demandé à ce qu'on écarte Greenwood et Enrique pour le manque d'implication. Après, c'est à eux de se prendre en main, les mecs. Enfin, que l'entraîneur il leur plaise plus, c'est eux qui vont aller chercher l'une des plus belles compétitions à jouer l'an prochain pour ceux qui restent. Et pour les autres, il faut jouer. Donc faut jouer, quoi.
Et qu'on sait pas non plus.
Moi, c'est là où j'arrive pas à capter dans la tronche d'un groupe. Comme ils peuvent se mettre à l'envers les uns les autres. Alors j'ai fait un sport individuel, en tout cas dans la prépa, c'est peut-être différent, mais comment tu peux en être rendu là à jouer pour les autres alors que c'est toi qui es sur le terrain? Si les joueurs, ils n'ont pas perdu leur talent, s'ils ont envie de s'y remettre et de jouer, c'est pas une nuit à faire dodo à la commanderie, ça va, la commanderie, c'est pas...
Il y a pire.
Ouais, enfin, David,
c'est de la potelle, quoi, ça va.
Vas-y, David.
Moi le bilan de l'OM, je trouve... affligeant, parce que enfin je trouve que il y a un propriétaire américain qui n'y connaît absolument rien, un président qui est resté agent de joueur et qui forme son équipe par rapport à son ancien métier ou son métier encore, je sais pas, faudrait lui poser la question, et puis un entraîneur comme vous l'avez très bien décrit, qui est pas un très grand entraîneur et qui subit tout ça. Voilà. Et c'est dommage que ce contexte global à l'OM existe. L'OM mérite mieux que tout ça. Mérite mieux en tant que propriétaire, mérite mieux en tant que président et entraîneur. Et joueur, évidemment.
Alors, on remercie Christophe d'être passé. Et Thiago est avec nous. Merci beaucoup, Christophe. Thiago a fait le 32-16 pour nous rejoindre dans ce débat. Salut, Thiago, supporter de Marseille.
Bonjour.
Également.
Bonjour.
Bonjour Thiago.
Bonjour.
On t'écoute sur cette fin de saison qui s'annonce pour ton club. Comment tu l'aperçois?
Fin de saison, je pense qu'on ne sera pas en Ligue des Champions. Je pense qu'il faudra maintenant un petit miracle pour qu'on y soit.
Ah oui, carrément. Pour l'instant, troisième, tu vas en Ligue des Champions directement. Hein, voilà.
Mais clairement, je pense qu'on n'y sera pas. Alors si on y est, tant mieux, et puis on prendra. Mais je pense clairement que la dynamique, elle n'est pas du tout positive. Et moi, je pense que ça va être très compliqué depuis janvier, depuis les points qu'on n'a pas su prendre, alors que les adversaires tous perdaient des points, Monaco, Lille, alors qu'on nous, on prenait pas de points, les autres en prenaient pas. On aurait pu, sur certains matchs, compter avec une victoire jusqu'à 8, 9 ou 10 points d'avance. Et au final, on les a pas pris et on se retrouve tous les week-ends à prier que les autres perdent. Alors, c'est génial en Ligue 1, c'est que tout le monde perd régulièrement. Donc,
c'est ce que j'ai mis en avant. C'est-à-dire que voilà. Même si donc, je te trouve assez pessimiste, parce que tu vois l'OM ne pas faire la Ligue des Champions, mais quand tu regardes derrière, alors évidemment, on sera ravis de voir le Racing Club de Strasbourg avec des champions. Brest a fait un beau parcours. Ça appartient à la multipropriété du Blue Project. Moi, ça me fait pas rêver du tout. Mais l'OM a encore un peu de marge quand même, parce que derrière, c'est pas le Barça, quoi. Derrière, c'est j'ai vu le Barça.
Ils ont que 2 points d'avance. Hein.
Lyon est la clé.
Là, c'est sûr qu'on a cette chance-là, mais clairement, alors ça pose un gros problème sur notre championnat. On peut en débattre parce que là, c'est compliqué. Mais Marseille, c'est compliqué parce que dès le départ, moi, j'avais eu la J'ai eu la chance d'intervenir régulièrement sur diverses émissions sur RMC. On avait déjà débattu en fin de saison dernière. J'avais émis mes doutes sur Roberto De Zerbi, qui n'était pas du tout, je pense, un entraîneur qui avait, en tout cas, le profil pour durer à Marseille
mais
et s'imposer.
Mais qui l'a ? Qui l'a ?
C'est quoi le bon profil pour durer à Marseille ?
C'est une bonne question.
Je pense que le bon profil, et même si on aime dire, et même si on aime dire à Marseille qu'il faut un entraîneur de caractère, etc., oui, il faut avoir, je pense, une bonne paire de couronnes pour tenir. Il faut être bien dans sa tête. Mais je pense qu'il nous faut un entraîneur qui justement, sache aussi, n'ait pas peur de prendre des décisions, mais qui sache prendre sur lui et pas s'enflammer dans tous les sens. Mmh. Et je pense que l'erreur qu'on fait depuis quelques années, c'est de prendre que des entraîneurs sulfureux qui démarrent au quart de tour à chaque fois et on voit que ça tient pas la route.
De caractère, des gens de caractère. Ben, oui.
Beaucoup trop.
Et là, pour aller dans le sens de mes collègues autour de la table, avoue quand même, pour moi, il y a un entraîneur ou deux en France, notamment Franck Haise, qui a un profil pour entraîner l'OM, quelqu'un de posé, de l'expérience, mais il veut pas venir à l'OM parce qu'il sait que quand il va être troisième, les trois quarts du peuple vont dire on va droit dans le mur, c'est une catastrophe ce club, faut tout changer. Il est là le problème, c'est aussi à la ville, au club, aux supporters d'avoir un peu de patience. Franck Haise à l'OM, au bout de 4 matchs, s'il a pas gagné les 3 sur 4, ils vont dire qu'il est mauvais. Sûr, il est là le problème.
Ça va tellement vite à l'OM. Ça,
on va remercier Thiago et bravo à Jérôme Pinault d'essayer de convaincre donc les supporters de Marseille. T'as vu, on a eu deux supporters de l'OM. C'est pas un sondage, non, mais
je suis supporter des
Sochaux. J'ai très très inquiet.
C'est à chaud, c'est 24, c'est compliqué. Enfin, c'est quelques heures.
Ouais, oui. Alors évidemment, si il gagne contre Montpellier et qu'il y a un match nul entre Strasbourg et Monaco.
Là, si tu vas aller en Ligue des Champions, tu dois gagner contre Montpellier.
Ah bah,
tu
gagnes.
Et contre Brest.
Et à Lille, attention.
Et après.
Et Lyon, tu le disais, ça peut être la clé. S'ils gagnent ce soir, ils reviendront à un point de Marseille.
Si Lyon gagne ce soir, t'as le Paris Saint-Germain, Monaco, l'OM et Lyon.
Ça promet en tout cas.
C'est assez logique. Ça promet
une belle lutte pour la Ligue des Champions.
Ce qui va jouer beaucoup, c'est
le qualif
ou pas de l'OL pour la demi-finale de l'Europa League. Mais c'est les quatre clubs qu'on attendait. Ils sont là après.
Bon, en tout cas, Jérôme, tu t'es vraiment très très bien battu. Moi, je trouve que tu as essayé. Voilà. En général, quand je commence comme ça, c'est pour t'annoncer que tu as perdu quand même.
Ouais,
je suis désolé.
Je me doute.
La victoire de la team non. Bravo.
Les supporters marseillais en font la fête plus tard que les supporters parisiens.
Mais on fera un débat peut-être sur l'OM.
Pas la fête en ce moment.
Merci d'avoir voté évidemment et restez avec nous à l'écoute d'RMC puisque dans un instant on va parler de Pauline Ferrand-Prévot. C'est la punchline des GG. Elle a remporté Paris-Roubaix hier. On l'entendra et on posera cette question. Est-ce que le cyclisme féminin change de dimension en France grâce à elle? On revient sur RMC tout de suite. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Vous écoutez les grandes gueules du sport, il est 10h32. Merci d'écouter RMC, Jérôme Pinault, David Douillet, Fred Veil, Sarah Pitkowski en grande forme ce matin. Et dans un instant, c'est elles qui prennent les commandes de l'émission, vous le savez, les GG contre-attaque. Elles vous ont proposé un débat. Vous pouvez encore aller voter jusqu'à 10h45 sur le compte X des grandes gueules du sport. Même si le suspense s'est un peu éventé, comme on dit, mais on ne sait jamais, il peut encore se passer des choses. Pour l'instant, David Douillet, c'est incroyable, c'est comme sur le tatami, t'écrases tout le monde là. Il n'y a plus de concurrence. 66% pour ton débat autour des déclarations de Sébastien Chabal. Le sport de haut niveau est-il dangereux? Et ensuite, derrière, on retrouve la proposition de Sarah sur Léon Marchand. Est-ce qu'il a eu raison de s'exiler en Australie après les JO? 15%. Le basket, 11% avec Rizaché qui est très bon pour sa première saison. Est-ce qu'il peut atteindre le niveau de Wemby? Et puis, le mythe peut-il faire peur à un sportif? 8% Jérôme Pinault, là, je sais pas ce qui se passe. Là, c'est la défaillance.
On en a marre, c'est pour ça.
C'est la défaillance. 8%, là, le débat.
J'ai du mal à m'exprimer.
Ça doit être ça.
C'est la voiture balai, là.
Bon, en tout cas.
J'ai plus souvent vu la voiture balai que la voiture ouvreuse, moi, dans ma carrière.
Bah, voilà. Continue sur ta lancée. C'est très bien. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la punchline. Elle est signée aujourd'hui, évidemment, celle qui nous a éblouis hier en devenant la première Française à remporter Paris-Roubaix. Pauline Ferrand-Prévot à l'issue de cette belle victoire.
RMC, la punchline GG.
C'est un bon entraînement pour être en bonne position pour les premières étapes du Tour de France qui seront compliquées en Bretagne. Et je veux prendre ces courses comme un entraînement. Non, je fais plaisir avec ce retour sur la route, je suis très heureuse. Le Tour de France, c'est mon objectif numéro 1 de la saison, je voudrais être à 100% pour le Tour de France. Je vais essayer de remporter le Tour de France dans les 3 ans.
Pauline Ferrand-Prévot qui se projette déjà sur le Tour de France et notamment cette année au micro d'Eurosport, un discours plein d'ambition pour celle qui s'est lancée après les JO réussis et son titre de championne olympique de VTT cross-country, le défi de briller sur la route. Deuxième au Tour des Flandres, elle a réussi hier à s'imposer en solitaire à Roubaix lors de cette 5e édition féminine. D'où cette question, les grandes gueules. Avec Pauline Ferrand-Prévot, le cyclisme féminin change-t-il de dimension en France? David Douillet.
Oui.
Fred Weiss.
C'est bizarre, je suis d'accord avec David Douillet, oui.
Sarah Pitkowski.
Oui, absolument.
Jérôme Pineau.
Oh oui.
Ah, donc voilà, vous êtes tous d'accord pour dire qu'effectivement ça a changé.
Mais ça va même au-delà, selon moi.
Oui, alors, et c'est pas que, le vélo féminin.
Alors, que le vélo féminin peut largement.
Bah justement, on va te demander, Sarah, masculin. Pourquoi oui?
Pourquoi oui?
Juste avant, pardon, Sarah, excuse-moi, on va quand même accueillir Maria Azé.
Oui.
Pardon, Maria Azé est avec nous.
Déjeuner, donc.
C'est vrai qu'elle était au petit déjeuner avec Christophe Cessieux.
Avec Christophe
Il fallait qu'elle nous fasse un débrief. Salut Maria, rebonjour, pardon.
Rebonjour tout le monde. Excellent petit déjeuner.
Il n'a pas tout mangé, Christophe, ça va? Il t'en a laissé quand même?
Non, il m'en a laissé quand même.
Ah, bah, ça va. Ça devait être un gros buffet.
Je lui ai laissé un tout petit croissant.
Ah, bah, il est là, Christophe, évidemment. Il n'est pas loin quand on parle vélo et avec Maria. Maria, tu as vécu ça, tu nous as commenté cette course, d'ailleurs c'était avec Christophe Cessieux. Raconte-nous justement cette belle victoire de Pauline Ferrand-Prévot. On en parlait hier dans les grandes gueules du sport, elle n'était pas forcément favorite mais elle avait une carte à jouer et elle l'a plutôt bien jouée.
Bah surtout qu'elle n'avait pas mis Paris-Roubaix au départ de son calendrier, mais une victoire française sur Paris-Roubaix, ce n'était quand même plus arrivé depuis Frédéric Guédon en 1997.
Je suis très fier d'elle, j'ai trouvé ça excellent, c'était incroyable. Une Française qui gagne, c'est la première fois sur un Paris-Roubaix féminin, on est heureux, et vive Pauline.
Elle est forte partout de toute façon, on se doutait bien que sur les pavés ça allait le faire, elle est à l'aise.
C'est un exemple, notamment pour les petites filles, donc c'est super pour le vélo.
Voilà, le public était présent en nombre au vélodrome de Roubaix pour accueillir sa championne française. Pourtant, Pauline Ferrand-Prévot aurait bien pu ne pas être au départ hier matin.
Et j'ai été malade ces deux derniers jours. Finalement, on a vu que j'avais plus de fièvre, donc on s'est dit voilà, ça peut être bien quand même de prendre le départ pour pouvoir aider Marianne du mieux possible. Donc j'ai pris le départ, mais j'étais sincèrement pas au mieux.
Malgré la maladie et la chute à l'entrée du 12e secteur qui l'a quand même bien ralenti, Pauline Ferrand-Prévot, rien n'arrête la championne olympique de cross-country.
C'est ça la vie en fait, j'ai l'impression qu'il faut toujours persévérer et puis sans en plus vraiment bien dans cette équipe, je sens que je suis épanouie.
Alors forcément cette victoire, elle fait le bonheur de la patronne du Tour de France Femmes, Marion Rousse.
Elle vient vraiment avec en tête de performer sur le Tour de France Femmes, donc ouais, tu parles à une directrice de course qui est très heureuse, très impatiente, parce que ça annonce vraiment des très belles années du cyclisme féminin.
4 mois après son retour à la route, après des années à briller en VTT, la Française veut désormais remporter son premier Tour de France qui partira, je vous le rappelle, de Bretagne le 26 juillet prochain.
Merci beaucoup Maria. Effectivement, c'est donc l'un des objectifs de Pauline Ferrand-Prévot. Donc oui, Sarah, le cyclisme féminin change de dimension depuis hier là, et la victoire de Pauline Ferrand-Prévot?
Oui, il était déjà en train... Enfin, il change par la personnalité et par la polyvalence de cette jeune femme. Pauline Ferrand-Prévot, quand on suit un peu le sport, c'est quand même un monstre de polyvalence. 15 titres de championne du monde sur des disciplines différentes. Et pourtant, il fallait vraiment être un aficionado soit du cyclisme, soit suivre le sport pour connaître cette capacité de Pauline Ferrand-Prévot d'être sur différentes disciplines. Je pense qu'elle est passée dans une autre sphère avec ce titre olympique, mais c'est surtout la forme de la course où elle a été devant tout le temps. Je pense qu'elle a marqué les esprits. Et puis aujourd'hui, ce qu'elle fait sur le Paris-Roubaix, où on dit que chez les hommes, gagner un Paris-Roubaix à sa première participation, c'est de l'ordre de l'extraordinaire, de l'irréalisable. Elle le fait en tant que coureuse. Et puis, alors, je peux me permettre de dire, elle apporte une touche de glamour. Elle est mimi tout plein. Et aujourd'hui, mine de rien, mais je le dis aujourd'hui, pour mettre des jeunes filles sur un vélo, il faut aussi avoir un un exemple.
Un modèle.
Un modèle. Et je vous le dis parce qu'on va parler tennis féminin après. Et je pense qu'elle représente totalement le modèle pour des petites filles qui vont se dire, oh, moi aussi j'ai envie de faire de vélo, je peux avoir une tenue sympa, c'est un sport complet. Et ça, mine de rien, ça paraît bête, mais c'est très important. Et aujourd'hui, je suis quasiment sûre qu'elle va servir d'exemple pour plein de petites filles qui vont se mettre au vélo.
Il y a un très beau papier ce matin dans l'équipe. Elle a des supporters. La maman emmène ses filles. Parce que hier, à Denain, hier, c'était la Pauline Mania. C'est ça aussi qui fait basculer.
Avant même de savoir qu'elle gagne ou pas, hein. Il y avait déjà des supporters sur les routes.
Ils sont revenus la voir. La dame explique exactement ça. Elle nous a emmenés avec elle depuis la course olympique aux Jeux. Mmh. Et depuis, j'emmène mes filles et j'insiste pour que mes filles suivent son parcours. Elle est inspirante pour les jeunes filles pour demain faire du sport et être des championnes. Donc c'est aussi ça. Et on n'avait pas cette tête d'affiche-là. Fred.
Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que les deux favorites qui vont courir le Tour de France, c'est elle. Donc pour une équipe étrangère. Mais de l'autre côté, c'est une étrangère qui va courir pour une équipe française. Donc,
Donc,
concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France va gagner, quoi qu'il arrive. Et donc, forcément, c'est hyper important pour le cyclisme. C'est hyper important pour le cyclisme.
Bien sûr,
parce qu'on peut pas se prévaloir de quelque chose chez les garçons. Donc, ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais j'ai quand même une question pour Jérôme. Elle a dit que le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, elle l'avait pris sur un temps où elle devait travailler en altitude. Mmh.
Elle a
Est-ce que ça peut être négatif justement pour le Tour de France? Est-ce qu'elle peut perdre cette période de préparation qu'elle a élaguée?
Non, pourquoi? Parce qu'elle a changé sa stratégie. Elle va aller en altitude. Elle va récupérer des classiques flandriennes. Là, elle est rentrée un peu dans la tête d'un coureur de classiques flandriennes. C'est-à-dire qu'elle va faire un peu une pause maintenant et d'accord. Elle va travailler en altitude sur le temps des Ardennaises où il y aura son adversaire principal, Demi Vollering. Pour le Tour de France. Elle va pas la croiser. Elle va, elle, se préparer pour les classiques ardennaises. Elle a besoin de cela pour se mettre dedans, sachant qu'elle vit avec son compagnon en partie à Monaco et en Andorre avec Dylan Van Baarle, lui aussi vainqueur de Paris-Roubaix il y a 3 ans. Donc, elle fait déjà un peu d'altitude. Sa préparation, elle va pas tellement la chambouler. Et je pense que le bonheur d'avoir retrouvé son public en France, à Paris-Roubaix, pour la première fois depuis qu'elle est revenue, ça vaudra plus qu'une semaine en altitude.
Okay. David.
Moi, je reprends un peu les arguments. elle déclenche vraiment quelque chose, et en particulier chez les jeunes. Elle vient de disciplines différentes aussi, et elle gagne partout. Là aujourd'hui, elle commence à gagner sur la route. Elle a gagné en cross country, en short track, en VTT marathon, en cyclocross, en gravel. Elle est l'exemple d'une championne qui, quand elle se met à fond dans une discipline, quelle qu'elle soit, elle réussit. Et aujourd'hui sur la route, on va dire le sport roi du cyclisme. Et je trouve que cette image globale est formidable pour les petites filles, pour les petits garçons aussi, hein, pour tout le monde. Cette exemplarité de réussite, elle gagne les Jeux, elle va peut-être, et je l'espère, je souhaite de tout mon cœur qu'elle gagne le Tour de France. C'est tout à fait exceptionnel.
C'est son grand défi. Hein.
Ouais, c'est son grand défi, c'est exceptionnel. Et puis le fait de se retrouver dans une grande équipe de vélo, la Visma Lisa Bike, c'est un signe aussi. Ça dénote toute l'importance que prend le cyclisme féminin au sein des équipes pro. Voilà, elle s'assoit et puis elle gagne et puis elle en fait parler et puis ça prend de l'ampleur. Je pense qu'elle vient de déclencher une nouvelle ère dans le cyclisme féminin. C'est de par ce qu'elle gagne.
Effectivement, on entendait Marion Rousse là, patronne du Tour de France. Ça, c'est tout bénef pour le Tour de cette année, hein, si Pauline Ferrand-Prévot
même avant
brille.
Qu'elle gagne Paris-Roubaix, quand elle a annoncé après les Jeux qu'elle voulait se remettre sur la route, qu'elle voulait faire le Tour de France, je veux dire qu'il y en a qui se frottaient les mains.
Elle ne se met pas sur la route, elle se remet.
Elle s'est
sur
remet
la route.
Sur elle
la est championne
route.
Championne du monde pour Ferrada.
Ça faisait 7-8 ans qu'elle n'était plus sur la route.
Elle a été dominatrice en France, hein, elle était la meilleure. C'est un peu par lassitude qu'elle s'est essayée. On parle beaucoup de Mathieu Van Der Poel aujourd'hui, et pour cause, c'est l'un des tout meilleurs coureurs du monde. Il gagne dans toutes les disciplines. Il n'a pas encore le titre de champion du monde de VTT. Mais Pauline est largement un Van Der Poel sur la route.
Mais c'est super bien pour le sport féminin.
Et elle est française.
Pour le sport français et féminin en général, c'est magnifique.
Et moi, j'appuie surtout sur ce que Fred a dit aussi, c'est que là, l'été prochain, L'assurance qu'on a, c'est qu'on va avoir un magnifique tour chez les filles avec du français devant et des françaises et des équipes françaises qui vont jouer la gagne. En fait, c'est pas sûr qu'on ait la même chose chez les garçons.
Non, c'est pour ça que on a tous les ingrédients pour que ce Tour de France féminin qui eût existé, qui a disparu et qui est revenu aujourd'hui, il a tous les ingrédients pour que les gens au bord des routes se prennent d'amour pour le Tour de France féminin.
Ça s'entend au discours de Marin Rousse.
Ah oui, bien sûr. Il relance cette course féminine. By Swift, qui est un sponsor, et qu'on sait que si ce sponsor-là ne vient pas et ne vient plus, le Tour de France féminin est en danger. Là, Pauline arrive, une France, c'est parti.
Il y a tous les ingrédients, et c'est vrai que même s'il est plus court, il est sur 10 jours, 11 jours, je crois.
Ouais, départ en Bretagne, arrivé à l'Alpe du. Enfin, c'est génial.
À Châtel.
Voilà, le rendez-vous est pris en tout cas, et nous on suivra et on suit le Tour de France Femmes sur RMC depuis son retour, grâce notamment à Maria Azé, et on suivra évidemment les performances de Pauline Ferrand-Prévot qui fait regarder le cyclisme à Thierry. Voilà, je voulais citer ce message sur l'appli RMC Direct Studio. Elle me fait regarder le cyclisme féminin, donc rien que pour ça, c'est une magnifique victoire. On va continuer de parler de vélo. On retrouvera Christophe Cessieux à 11h pour parler de ce Paris-Roubaix, événement de la journée bien sûr, mais vous restez avec nous parce que dans un instant, les GG contre-attaquent. Vous avez encore quelques minutes seulement pour voter, allez donner des petits votes à Jérôme Pinault, il en a besoin pour pas finir bon dernier. Restez avec nous, on revient tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Vous écoutez les grandes gueules du sport. David Douillet, Sarah Pitkowski, Fred Veil, Jérôme Pinault. Et dans un instant, les grandes gueules qui vont passer la seconde. On retrouvera Christophe Cessieux à Roubaix avant la Reine des Classiques aujourd'hui. Est-ce qu'on est en train de vivre les plus belles heures du cyclisme? On vous attend 32-16, fans de sport, pour nous rejoindre dès maintenant. Un petit coucou et on encourage Valentin Jamin. On en parlait pendant la pause. Valentin Jamin qui a la moitié de son parcours quasiment en 1h46. On le retrouvera peut-être vers la fin ou quand il arrivera. En tout cas, on salue Benoît Boutron qui est à 1 km de l'arrivée. Là, il est à 2h46. Bravo Benoît, on t'encourage, membre évidemment de l'équipe RMC, et on te soutient. Mais d'abord, à 10h47, on va voir que les grandes gueules prennent les commandes de l'émission. Et qui va prendre les commandes de l'émission? On va le savoir tout de suite.
RMC, les GG contre-attaquent.
Je vous le disais, le suspense, il n'y en a pas eu pour ces débats. Quatrième et dernière place, Jérôme Pinault, 8% avec son débat sur le mythe, peut-il faire peur à un sportif? Il le retentera sans doute. Troisième place du basket, Rizaché égale Wemby. C'était la question que voulait vous poser Fred Weiss, 12%. Juste au-dessus, 15%, Sarah Pitkowski qui voulait nous parler de Léon Marchand. Et donc le grand vainqueur, ceinture noire en même temps, hein, vous ne pouviez pas rivaliser. Hein. C'est donc toi, David Douillet, qui voulait nous revenir sur les déclarations de Sébastien Chabal. Alors, on en a parlé hier dans les grandes gueules du sport, mais c'est intéressant de t'entendre aussi sur justement ce qu'il a dit et sur ce sport de haut niveau qui est dangereux, notamment pour le rugby, mais pas seulement.
Ouais, moi j'ai trouvé que Sébastien a été extrêmement courageux. Voilà, vraiment, c'est pas simple de parler de ces sujets. Et c'est pas simple non plus pour un athlète de niveau, parce que pour lui c'est toute sa vie, et quelque part il est obligé d'expliquer quelque chose d'extrêmement négatif pour le sport de haut niveau. Donc ça, il a eu besoin d'un courage fabuleux, je l'en félicite pour ça. Alors si on revient un peu sur le sujet global, est-ce que le sport de haut niveau est dangereux pour l'homme, pour la femme, pour l'homme, pour l'humain? La réponse, je vais pas vous la donner tout de suite, mais probablement, parce qu'on peut parler des problèmes physiques, on peut parler aussi des problèmes psychologiques, et quand les deux sont liés, ça fait de très gros problèmes. Le corps humain n'est pas fait pour physiologiquement courir des milliers de kilomètres, que ce soit à pied, en courant, en vélo, peut-être nager des milliers de kilomètres aussi dans une piscine. C'est pas fait pour lever des charges excessives, tenir des types de 200 kilos sur son dos en porte-à-faux, ou rentrer de plein fouet dans une mêlée, ou dévaler des pentes à plus de 100 kilomètres heure, ou en ski, etc., etc. Enfin bref, des exemples, il y en a des milliers. Non, on n'est pas fait pour ça. On s'en approche, on s'entraîne pour ça. Est-ce qu'on en a conscience quand on est athlète de haut niveau? Pas forcément. Je pense que si Sébastien avait eu conscience et si on lui avait dit à l'époque, tu sais, tu risques plus tard d'avoir de gros problèmes de mémoire dus à ta pratique, je suis pas sûr qu'il ait abordé sa carrière de la même manière. Malgré tout, si on lui avait dit au départ, eh ben, ça risque de se passer comme ça, on peut atténuer ça, on peut se protéger de ça. Je pense qu'il aurait continué sa carrière et il l'aurait fait peut-être un peu différemment. Donc tant dans la prévention que dans le choix que doit faire l'athlète, eh bien il s'agit de décisions importantes en fait, parce que ces décisions-là, en fait, quand on est athlète, quand les ressentis sont surtout physiques et quelquefois psychologiques, eh bien on le sait et en général. Pas tous, pas à chaque fois comme Sébastien, mais on le sait. Et on est obligé de faire un choix. Alors, je veux bien distinguer le sport et le sport de haut niveau, hein, que les choses soient claires. Il s'agit pas ce matin de faire peur à tous les parents que de dire que le sport est très dangereux pour le physique. Au contraire, non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Je ne parle que du sport de haut niveau, la pratique intensive, la pratique extraordinaire. On est dans ce giron-là. Malgré tout, on doit se poser la question, peut-être en tant que parent, est-ce qu'on laisse s'engager son enfant dans cette filière-là, et de quelle manière je peux le protéger pour éviter tous ces problèmes, mais aussi en tant qu'individu, est-ce que je prends ce choix d'altérer mon physique de manière rapide, accélérée, au regard de ce que ça peut m'amener dans ma vie, et peut-être sur la suite de ma vie, qui sera en vieillissant très compliquée. Je vais juste parler de ma petite expérience personnelle. J'ai eu ce choix à faire et je l'ai pris. Voilà, au milieu de ma carrière, avec 3 hernies discales, avec un dos abîmé aussi par un accident de moto, des spécialistes médicaux, chirurgiens, médecins, traumatologues, etc., se sont réunis pendant plus de 2 heures. Et à l'issue de cette réunion, on m'a annoncé que je devais arrêter le judo pour telle et telle raison.
Ah oui.
Eh oui. Et je suis reparti avec ça. J'ai laissé passer la nuit. Et le lendemain, je faisais mon choix. Je savais que pertinemment, probablement, j'allais accentuer les problèmes que j'avais, que j'allais les traîner jusqu'à aujourd'hui. Et je vous le confirme, je les traîne jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était un choix de ma part. Et si je devais encore refaire ce choix aujourd'hui, même avec les conséquences que je peux avoir aujourd'hui, eh bien, je le referais. Je le referais parce que c'est une vie aussi extraordinaire, c'est une vie incroyable. Et ça, au regard, je parle même pas des médailles, hein, ça au regard des sacrifices que ça peut te demander, au même titre qu'un chef d'entreprise, au même titre de quelqu'un qui veut aller loin dans un domaine. Il y a toujours des sacrifices, il y a toujours un revers de la médaille. À soi-même de quantifier ce qu'on est capable d'accepter ou non, et ne pas cataloguer comme le font certains, il faut plus faire de sport de haut niveau parce que c'est grave pour la santé, etc. Non, il y a des choix, il y a des hommes et des femmes derrière qui sont grands, suffisamment grands pour prendre leurs décisions.
Vous avez tous fait un choix autour de la table, effectivement, hein, de pratiquer au haut niveau, pas moi, mais voilà, comme le disait David, je pense que ça vous parle, évidemment, ce que dit David.
De ce que dit David, c'est une certitude, après t'as 2 choix aussi, et finalement, tu te dis, psychologiquement, moi je parle des physiquement, moi, j'ai pas eu de problème après ma carrière. En revanche, j'ai eu un manque et psychologiquement, c'est compliqué à gérer. Mais aujourd'hui, quand tu fais la balance de ce que ça va t'apporter psychologiquement d'avoir fait du sport de très haut niveau avec les fonds que tu peux traverser quand ça s'arrête, moi, je refais le même choix, je l'y vais. Mais pourquoi? Parce que je pense pas qu'on fasse le choix. On est très peu à être capable de le faire finalement. Dans chacune des catégories.
Non, mais c'est pas qu'on fait.
Devenir sportif de haut niveau. On est fait pour ça, en fait.
On est fait pour ça, et c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est pas que tu fasses un choix, c'est qu'en fait, pour toi, ça paraît logique. Et que chaque fois qu'on te dit, parce que quand tu commences le sport, tout le monde te dit.
Quand on entend Sébastien Chabal et ceux qui veulent faire du rugby, sans doute que là, ils vont devoir faire un choix, mais ils savent peut-être qu'il y a des conséquences.
Mais même en sachant, tu penses que ça n'arrive qu'aux autres. Même en sachant, tu vas te lancer dans le truc pour la plupart. Et moi, je trouve que c'est très bien justement que ces anciens sportifs parlent et que Chabal parle. Parce que effectivement, on croit tous que ça arrive aux autres, que nous ça nous arrivera pas, que après notre carrière on aura pas mal partout. Moi, quand je me lève les matins, j'ai mes 2 chevilles qui sont ultra enflées. Pourquoi? Parce que quand t'es sportif au niveau et quand tu fais du basket particulièrement, tu te fais beaucoup d'entorses.
Et tu le savais ça quand t'as fait ce choix?
Ben non. Mais en fait, je savais sans le savoir, c'est-à-dire que on me l'avait dit.
T'aurais aimé qu'on te le dise. Ah, si,
non, on me l'avait dit, mais sauf que pour moi, ça n'existait pas. Et le problème de blessure quand t'es sportif de haut niveau, c'est que une entorse pour quelqu'un de lambda, c'est 2 semaines, 3 semaines. Une entorse quand tu fais du basket, c'est 3 jours. Et donc, à un moment, bien sûr que tu le payes. Bien sûr que ça se répercute sur ta santé. Mais moi, je pense que une nouvelle fois, tout ce qu'on a vécu, bah, ça va à l'esprit là, peut-être. Mais peut-être pas dans le cas de Sébastien Chabal. Hein. Je parle de blessures physiques. Et malheureusement, bah, ça fait partie du jeu. Et c'est une très bonne chose qu'on prenne conscience et qu'on traite de plus en plus les athlètes pour qu'à la fin, ils finissent pas comme nous, quoi.
Sarah, un mot sur ce qu'a dit Sébastien Chabal, sur peut-être ce qu'a dit David Douillet?
Non. Bah, disons que, moi, c'est un discours que je connais pas trop parce qu'on fait pas un sport dit dangereux. Alors oui, on peut avoir les entorses, on peut avoir les ligaments du genou. Enfin, mais là, en l'occurrence, les déclarations de Chabal,
oui, ça va plus loin, bien sûr.
Ça va beaucoup plus loin. Donc en fait, j'ai du mal à me reconnaître dans le discours de Sébastien Chabal. Je suis interloqué, en fait.
Comme beaucoup.
Oui, c'est...
Dans le cas de Sébastien Chabal, moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout que il est quand même pas sorti du circuit, quoi. On le croise, Sébastien Chabal. Il a été invité à des... Il y a des gens du rugby qui disent...
Ah, bah, tout le monde a été surpris.
On est étonné. Mais alors, il n'en avait jamais parlé.
Non.
C'est quand même chelou, non ? En tout cas, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent. Et voilà, et c'est important pour les sportifs. Merci beaucoup, David. En tout cas, bravo pour ta victoire sur les grandes gueules contre-attaque. Hein. Voilà, c'était très intéressant.
Ça vaut pas une médaille olympique, mais bon, c'est pas
mal. Ouais, c'est pas mal quand même. Non, c'est pas mal. C'est moins violent. Oui, David ?
Je voulais en parler pour éviter que les gens n'aient peur. Enfin, je m'adressais surtout aux parents, tu vois, qui peuvent être terrifiés en disant waouh, mon gamin, etc. C'est absurde. Tout ça peut être anticipé en réalité, et en l'anticipant du mieux possible, on peut vivre des vies tout à fait extraordinaires et des après-vies aussi fabuleuses. Voilà.
Merci beaucoup, David, et tu restes évidemment avec nous, comme toutes les grandes gueules du sport qui reviennent tout de suite. On passe la seconde. On va parler de vélo. Tiens, on va parler de vélo, mais c'est normal. C'est un jour exceptionnel pour les fans de vélo, Paris-Roubaix, un Paris-Roubaix d'anthologie, normalement, avec la présence de Tadej Pogacar qui va découvrir les pavés de cet après-midi. Vous restez avec nous, on revient tout de suite dans les grandes gueules du sport sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.